Bien, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance du séminaire consacré au libéralisme dans tous ses états, dispositif mis en place par des enseignants-chercheurs de deux laboratoires distincts, l'ICD, Interaction culturelle discursive, ainsi que l'IRGI, Institut de recherche juridique interdisciplinaire. Ce séminaire, inauguré en 2019, vise à retracer les origines et les soubassements théoriques et idéologiques du néolibéralisme forgé par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et celui de Ronald Reagan aux États-Unis et d'en analyser les impacts et les mutations actuelles dans une dimension transnationale et transversale. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Daniel Colomb, professeur des universités en civilisation américaine à l'université Grenoble-Alpes. Ses recherches portent sur les questions environnementales aux États-Unis et sur l'histoire des divers mouvements de protection de l'environnement apparus outre-Atlantique depuis la seconde moitié du 19e siècle. Il est l'auteur donc de John Muir, Parcs nationaux et écologiques, Écologie 2013 et de Une histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis, publié en 2018. Il a aussi consacré plusieurs articles aux relations antagonistes entre la droite américaine et le mouvement environnementaliste depuis les années 1980. L'intitulé donc de sa présentation ce soir, Sur du climat en Amérique, Donald Trump, les républicains et les questions environnementales. Jean-Daniel, la parole est à toi.
Bah, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour participer à ce séminaire. Moi, je suis très content d'y participer et de pouvoir partager le fruit de mes recherches de ces dernières années. Donc, comme tu l'as expliqué, je vais essayer de montrer, de décortiquer et d'analyser la vision mise en avant par la droite américaine de la question climatique et les conséquences que cette vision a eues ces trois dernières décennies. Et dans l'esprit de ce séminaire, je vais essayer de montrer que la défense du libéralisme économique et de la libre entreprise est au cœur de ce mouvement qu'on pourrait qualifier de climato-sceptique, même si on verra qu'il y a quelques variations. Question évidemment de climato-scepticisme. Le mouvement climato-sceptique, comme vous le savez sans doute, est plus vigoureux aux États-Unis que dans les autres pays industrialisés, à l'exception très partielle de l'Australie et de la Grande-Bretagne notamment. Et on sait que le climato-scepticisme américain joue et a joué un rôle dans l'inertie politique des États-Unis dans le domaine climatique. Ce que je veux dire également en introduction, c'est que l'hostilité aux régulations environnementales précède l'irruption du changement climatique dans l'arène politique américaine qui a lieu à la fin des années 80 et dans les années 90. Et en réalité, depuis la fin des années 70 et notamment depuis la présidence de Ronald Reagan, l'hostilité aux réglementations environnementales et à la plupart des accords multilatéraux visant à protéger l'environnement est un des piliers de l'agenda du Parti républicain, notamment depuis la présidence de Ronald Reagan. Et encore une fois, dans l'esprit de ce séminaire, il faut rappeler en introduction que la défense du libéralisme économique, de la libre entreprise, est au cœur de ce mouvement anti-environnementaliste. Ma présentation aujourd'hui essaiera de répondre à deux objectifs. Premièrement, je vais essayer dans ma première partie de présenter et d'expliquer l'hostilité aux réglementations environnementales qui dominent dans les cercles républicains depuis la fin des années 70 et depuis les années 80. Et ensuite, dans la deuxième partie de mon intervention, j'essaierai d'évaluer les répercussions de cet anti-environnementalisme de principe sur les politiques publiques qui sont mises en place ou qui ne sont pas mises en place d'ailleurs aux États-Unis et également sur la tonalité du débat climatique, de la conversation climatique aux États-Unis. On verra d'ailleurs que le mot « conversation » est peut-être un peu galvaudé. Alors pour commencer, je voudrais, comme je l'ai dit en introduction, essayer de placer cet anti-environnementalisme dans son contexte historique. Et il faut dire que si on s'intéresse au Parti républicain, jusqu'aux années 70, ce parti ne s'est pas particulièrement distingué comme une force anti-environnementaliste, loin de là. Et d'ailleurs, les questions de protection de l'environnement, de politique publique de protection de l'environnement, ne sont pas source d'une polarisation particulière entre les deux grands partis américains, les démocrates et les républicains. Et j'en veux pour preuve, je vais vous donner quelques exemples les plus notables, il y en a d'autres évidemment, c'est quelques illustrations. Par exemple, le premier parc national, alors il est vrai que Yosemite Park, c'est à ce parc que je fais allusion, qui a été créé en 1864, n'était pas désigné sous le nom de parc national en 1864, et il a été renommé ensuite comme cela. Donc certains historiens de l'environnement diront que ça n'est pas le premier parc national, mais disons que la première tentative de ce genre a lieu en 1864 dans le monde, hein, pas seulement aux États-Unis, et ce sont des majorités républicaines au Congrès qui votent ce texte, un an d'ailleurs avant la fin de la guerre de sécession. Au début du XXe siècle, le président le plus vert, si l'on peut dire, le plus écologiste de l'histoire des États-Unis, sans aucun doute à mon avis, Theodore Roosevelt, appartient au Parti républicain, et son bras droit, Gifford Pinchot, donc un Américain avec un nom français, qui est considéré comme le pionnier du conservationnisme utilitaire, a également été le gouverneur républicain de l'État de Pennsylvanie à deux reprises dans les années 20 du XXe siècle. Et puis, de manière un peu plus contre-intuitive, je pense, on doit citer l'exemple le cas de Richard Nixon, le Richard Nixon du Watergate, qui est à l'origine de la création de l'Agence nationale de protection de l'environnement aux États-Unis, à l'échelon fédéral, l'EPA, Environmental Protection Agency, qui est une sorte de gendarme environnementaliste qui s'assure que les normes et les lois de protection de l'environnement sont respectées dans le pays, ce qui est une tâche herculéenne. Ce qui est intéressant, c'est que cette agence est aujourd'hui honnie par la plupart des républicains et contemporains et des conservateurs et des libertariens, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Cependant, le vent commence à tourner à partir des années 70. À partir des années 70, notamment, dans les milieux d'affaires, on commence à s'interroger quant à l'ampleur des réglementations qui sont imposées aux grandes entreprises américaines. Et cette inquiétude trouve une forme structurée dans un rapport qui est assez célèbre pour les gens qui s'intéressent à ces questions aux États-Unis, The Powell Memo, donc, qui a été rédigé, comme son nom l'indique, par Lewis Powell, pour le compte de la Chamber of Commerce, qui est une sorte d'association de défense des grandes entreprises aux États-Unis, donc qui fait l'apologie de la libre entreprise aux États-Unis. Lewis Powell, qui a ensuite été nommé juge de la Cour suprême par Richard Nixon, encore lui. Et donc, dans ce rapport, Lewis Powell explique que le marché libre, le capitalisme, la libre entreprise sont de plus en plus marginalisés culturellement et intellectuellement aux États-Unis, à l'université, dans les médias, dans les élites politiques, et qu'il est urgent pour les défenseurs du libre-échange d'essayer de monter un contre-mouvement. Et dans ce rapport, il en appelle à l'instauration d'un contre-mouvement, d'une sorte d'architecture intellectuelle et idéologique pour contrer les socialistes, les partisans de l'économie mixte et les critiques d'une économie qui serait en grande partie déréglementée. Alors, on a tendance parfois à un peu surestimer l'importance de ce rapport. Je pense que c'est une importance qui est surtout symbolique. D'autres voix se sont élevées dans ces milieux à cette époque-là pour défendre la même idée, mais ce rapport a eu le mérite, si vous voulez, de vraiment formaliser cette inquiétude qui a commencé à poindre dans les années 70. Et d'ailleurs, cette inquiétude ne sort pas de nulle part, puisque c'est une réaction à l'augmentation de la capacité de réglementation de l'État fédéral, qui est particulièrement notable dans les années 60 et dans les années 70. Et les réglementations environnementales en sont un très bon exemple. Alors là, je vous donne quelques exemples sur cette diapositive, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans les années 60 et notamment dans les années 70, le Congrès des États-Unis vote une série de lois, un peu moins de 20 lois à peu près, qui visent à lutter contre la pollution. Donc on a les diverses moutures du Clean Air Act, du Clean Water Act, etc. On a parlé tout à l'heure de la création de l'Environmental Protection Agency. Donc on voit vraiment que c'est un contre-mouvement qui réagit à l'ajout de nouvelles prérogatives à l'arsenal de l'État fédéral qui est bien réel, hein, puisqu'aujourd'hui encore, les lois qui sont votées, notamment dans les années 70, Environmental Decade, selon les historiens de l'environnement aux États-Unis, sont une sorte de support pour les écologistes afin d'essayer de mener la bataille, par exemple, contre l'administration Trump, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, ce que demande Powell dans son rapport, le mouvement conservateur aux États-Unis parvient à le produire assez rapidement. Donc, on note à partir des années 70 une augmentation assez sensible des investissements dans les campagnes électorales, dans le lobbying politique. Alors, le lobbying politique, évidemment, n'apparaît pas aux États-Unis dans les années 70. Il est aussi vieux que la République américaine, mais il est évident cependant que l'argent qui est investi dans le lobbying par des grandes entreprises qui cherchent à remettre en cause l'État régulateur augmente considérablement à cette époque-là. Et puis, toujours comme une réponse au rapport qui a été rédigé par Lewis Powell, on assiste notamment dans les années 70 à l'apparition de cette fameuse infrastructure intellectuelle et idéologique que Powell a appelée de ses voeux, et on le voit à travers ses think tanks comme l'Heritage Foundation, le Cato Institute, qui est sans doute le think tank libertarien le plus en vue et le plus important aux États-Unis, tous ces think tanks qui sont encore très actifs aujourd'hui et dont la mission est de mener le combat idéologique contre l'État régulateur et également de fournir les administrations républicaines et les élus républicains en idées, en propositions de loi et même d'ailleurs en personnel. On l'a vu dans les années 80 avec Ronald Reagan, mais aussi avec George Bush au début des années 2000 et sous Donald Trump, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors avant de passer à la deuxième partie de mon intervention, je voudrais essayer de résumer assez rapidement, je vais essayer évidemment de tenir le temps qui m'est imparti, les idées, le corps de doctrine, si vous voulez, défendu par ces think tanks et par ces experts en politique publique qui commencent à être de plus en plus nombreux à partir des années 70. Et ce qu'on pourrait dire, pour commencer, c'est qu'on retrouve des principes qui sont assez faciles à identifier pour les personnes qui sont familières du libéralisme classique, donc cette idée que les réglementations environnementales sont des obstacles contre-productifs à la croissance et à la création de richesses. Aucun État, aucune autorité centralisée ne saurait mobiliser et collecter assez d'informations pour administrer correctement un ensemble aussi hétérogène et aussi monumental que l'économie américaine. À cette idée est généralement associé un rejet très fort du principe de précaution, qui est particulièrement porté par un politiste américain qui s'appelle Aaron Wadowski, à partir des années 80, qui publie plusieurs livres sur ce sujet et qui essaye de montrer que le principe de précaution agit comme une entrave irrationnelle à l'innovation technique et qu'il empêche la société de bénéficier des bienfaits de l'innovation technique.
S'il te plaît.
Pardon ?
Si tu pouvais partager ton PowerPoint en faisant un
partage. Il est plus partagé ? Alors, je vais recommencer.
Excuse-moi.
Non, pas de problème. Alors, il y est pas depuis le début ou ?
En fait, ouais, il n'y est pas depuis le début.
Ah, d'accord, ok. Alors, attendez, je vais recommencer. Je suis vraiment désolé. Alors, il a disparu. Je suis désolé. Alors. Hop, je recommence, pardonnez-moi. Normalement, il va être là, donc il ne me le propose pas, merci. Alors, je vais le chercher autrement. Alors, je vais le chercher. Est-ce que ça fonctionne ? Apparemment, non. Si, vous ne voyez pas, non ? Toujours pas. Hop, je recommence.
Oui, c'est bon, ça vient.
Là, on le voit. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran. Est-ce que là, vous le voyez toujours ?
C'est parfait. Non, on ne te voit plus, mais on voit bien ton PowerPoint, par contre. On voit bien ton diaporama. C'est parfait. Ouais, voilà, super.
Très bien. Et donc, il ne faut pas m'hésiter à m'interrompre, parce que sinon, je vais continuer. Alors, donc tout va bien, on voit très bien. Donc, j'ai parlé du principe de précaution. Un autre argument qui est très souvent utilisé et très souvent mobilisé dans la littérature extrêmement profuse, qui est produite par ces think tanks, c'est l'idée que l'enrichissement matériel permet, favorise paradoxalement la protection de l'environnement et que donc il ne faut pas entraver la croissance économique, il faut tout faire pour la favoriser à travers donc la déréglementation des activités économiques. L'idée étant que plus une société est riche, plus ses citoyens se soucient de la protection de l'environnement et de la santé publique. Et donc, une société riche sera une société qui protégera plus son environnement. Alors, la question, c'est comment elle s'y prendra, peut-être par des réglementations environnementales. C'est souvent l'angle mort de ce genre de propos. Et le corollaire de cette défense de la société d'abondance comme société environnementalement responsable, c'est l'idée, qui est juste d'ailleurs, que les sociétés riches et les économies développées sont plus résilientes et plus à même de résister aux aléas climatiques, aux aléas atmosphériques, et que donc, pour se protéger, par exemple, des conséquences du changement climatique, lorsque l'on reconnaît son existence, ce qui est parfois un peu rare dans ce milieu, mais on pourra en reparler, il faut au contraire avoir une économie avec une infrastructure très, très résiliente et donc utiliser des hydrocarbures. Ensuite, je voudrais dire un mot de la gestion, de l'administration du domaine public fédéral. Vous savez peut-être que l'État fédéral a la responsabilité de gérer une très grande partie de l'immense territoire américain, donc un peu moins d'un tiers du territoire américain est géré par diverses agences fédérales. Et sans compter évidemment les eaux territoriales qui, elles, sont aussi quasiment entièrement gérées par l'État fédéral. Et c'est un acquis qui a été assez difficile à obtenir, d'ailleurs, aux États-Unis, qui remonte à peu près à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette responsabilité de l'État fédéral vis-à-vis du domaine public, alors que pendant les 130 premières années de l'histoire américaine, à peu près 50% du domaine public a été privatisé. L'idée était que l'État fédéral n'avait pas la responsabilité de gérer de manière éclairée le domaine public. Et évidemment, du point de vue des partisans du libre marché, cette idée doit être remise en cause, hein, le principe toujours cher aux libéraux classiques qu'aucune institution centralisée n'est capable de gérer avec compétence et de manière éclairée de tels espaces, ce qui conduit ces experts en politique publique à recommander la privatisation d'une partie de l'espace public. Alors, à ma connaissance, ça n'est jamais suivi d'effet. Et donc, à défaut d'une privatisation des parcs nationaux, des forêts nationales, par exemple, ces experts recommandent généralement un transfert de la gestion et de l'administration des espaces contrôlés par l'État fédéral aux États fédérés qui, eux, sont censés être plus proches des réalités locales et donc des besoins des acteurs économiques locaux. Enfin, pour terminer ce tableau des positions défendues par les think tanks dont j'ai parlé tout à l'heure, il convient aussi de dire un mot de leur scepticisme, pour ne pas dire, pour être tout à fait honnête, leur hostilité à l'encontre des accords, des tentatives de résolution multilatérale des problèmes environnementaux. Et ça remonte encore à la fin des années 70, et tout particulièrement le grand tournant, c'est vraiment la présidence de Ronald Reagan. Donc je vous donne quelques exemples ici, mais il y en a d'autres. George H.W. Bush, le Bush père, donc le premier président Bush, le plus intelligent des deux, j'imagine, lui a refusé, alors je vais y revenir ensuite après pour ses positions sur le climat, mais a refusé par exemple que son pays signe la Convention sur la diversité biologique au début des années 90, principalement pour défendre les intérêts de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Son fils, George W. Bush, a fait sortir les États-Unis de Kyoto. Alors, les États-Unis avaient signé l'accord de Kyoto par le biais de l'administration Clinton, mais ne l'avaient jamais ratifié. Le Sénat n'avait même pas accepté, démocrates et républicains, de se prononcer et de voter sur le protocole de Kyoto. Et puis, tout le monde a entendu parler, évidemment, de la décision en juin 2017 de sortir de l'accord de Paris de la part de Donald Trump. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a d'autres exemples, évidemment. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est la question des répercussions concrètes sur les politiques publiques. Et on voit que ces répercussions sont assez nombreuses. Et pour vous donner une idée des acquis, des réussites, du mouvement climato-sceptique aux États-Unis, de cette opposition à des politiques volontaristes dans le domaine climatique. Je voudrais brosser un panorama extrêmement rapide des positions du Parti républicain sur la question climatique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement climatique devient un sujet politique aux États-Unis seulement à la fin des années 80 et particulièrement dans les années 90. On note l'importance du sommet de la Terre à Rio, hein, puisque c'est le moment où la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été créée et ratifiée par quasiment tous les pays du monde. Et c'est dans ce cadre que les fameuses COP, comme la COP 21 de Paris, se déroulent. Et à ce moment-là, on peut déjà se souvenir du rôle assez ambivalent du président George H.W. Bush, qui n'est depuis Ronald Reagan, clairement celui qui a pris les positions les moins radicales sur ces questions. George Bush donc accepte que les États-Unis rejoignent la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais il fait en sorte que ce cadre ne soit pas contraignant. En fait, il fait en sorte que cette convention cadre soit vidée d'une bonne partie de sa substance en faisant en sorte qu'on ne puisse pas contraindre les pays et les signataires, et notamment les États-Unis, à adopter des mesures qu'ils ne voudraient pas prendre et qui pourraient nuire, par exemple, à la compétitivité économique du pays. Et d'ailleurs, en amont de ce sommet de la Terre, le président Bush avait marqué les esprits en déclarant donc « The American way of life is not up for negotiations, period ». Donc cette idée que le mode de vie extrêmement énergivore de la plupart des citoyens américains ne devrait pas être remis en cause par les engagements pris par les États-Unis dans le domaine climatique. Quand même une sorte de quadrature du cercle, mais on pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure. Ensuite, dans les années 90, l'opposition grandit à toute mesure volontariste. Dans le camp républicain, on peut dire que c'est vraiment un moment où le climato-scepticisme fait son nid dans l'archipel républicain, ce qui conduit à l'extrême passivité de l'administration de George W. Bush dans les années 2000. Hein, George W. Bush qui explique que la question du changement climatique n'a pas été tranchée par les scientifiques, que la controverse scientifique continue et qu'il est donc urgent de ne rien faire, ce qu'ils s'empressent de faire évidemment. Et puis, durant la présidence Obama, les républicains déploient des efforts énormes pour empêcher ce président qui avait parlé du climat lors de sa première campagne, pour l'empêcher d'obtenir une loi, j'y reviendrai dans quelques instants, pour essayer de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Donc on peut dire que globalement, et ce sera le dernier mot de ma première partie, le climato-scepticisme américain au sens large et tous les partisans du marché libre qui se sont mobilisés sur cette question ont formé un mouvement social d'une assez grande efficacité, hein, au nom de la défense de la liberté des entreprises américaines de ne pas être réglementées pour lutter contre le changement climatique. On peut dire par exemple que les États-Unis n'ont jamais voté de taxe carbone à l'échelon fédéral. La dernière tentative remonte à 1993, le début de l'administration Clinton. Les États-Unis n'ont jamais créé à l'échelon fédéral un marché du carbone avec des crédits à polluer. Ces marchés existent aux États-Unis, mais seulement en Californie et dans le nord-est des États-Unis. Et puis, les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto et sont le seul pays à être sorti de l'accord de Paris en novembre 2020, juste avant la défaite de Donald Trump, même si les États-Unis sont sur le point de rejoindre à nouveau l'accord de Paris. En tout cas, c'est une affaire de quelques jours encore, me semble-t-il. Donc on voit vraiment que les prises de position que j'ai décrites, l'architecture idéologique qui a été créée dans les années 70, porte ses fruits concrètement. Alors évidemment, c'est un petit peu plus facile pour les climato-sceptiques puisqu'ils essayent d'empêcher des politiques publiques d'être mises en place plutôt que de favoriser l'adoption de nouvelles politiques publiques. Mais force est de constater que, de leur point de vue, les résultats sont là. Alors maintenant, dans la deuxième partie de mon intervention, je voudrais parler des conséquences. Et en fait, j'hésite un peu parce que le premier point que je vais développer n'est pas vraiment une conséquence. Je voudrais ajouter un élément de contexte pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel les politiques publiques relatives au climat sont adoptées ou ne sont pas adoptées. Il faut rappeler, pour bien comprendre la dynamique de la question climatique dans le contexte américain, que les États-Unis doivent essayer d'adopter des politiques publiques innovantes pour faire face au changement climatique, avec une constitution qui a été rédigée à la fin du XVIIIe siècle et qui est frappée du sceau du libéralisme classique, hein, donc qui donne énormément de poids aux minorités agissant, aux minorités qui voudraient bloquer le processus de prise de décision, d'accord, hein, le système de poids et contrepoids qui permet de défendre le statu quo. Et pour vous donner une illustration un peu parlante de ce dont j'essaye de parler ici, pour que les États-Unis puissent voter une loi, pour que une loi soit votée aux États-Unis à l'échelon national, qui pourrait être ambitieuse, par exemple, à travers un plan de relance massif qui orienterait les investissements publics vers la transition, ou l'adoption d'un marché du carbone, ou l'adoption d'une taxe carbone à l'échelle nationale. Il faut tout d'abord qu'un parti se saisissent de cette question et en fassent une priorité. C'est le cas du Parti démocrate actuellement. Il faut que ce parti remporte la Maison-Blanche, ça a été fait. Il faut que ce parti gagne la Chambre des représentants, ce qu'ils ont fait également, même s'ils ont perdu des sièges. Il faut idéalement qu'il gagne le Sénat et qu'il remporte une majorité qualifiée de 60 sénateurs sur 100, afin de surmonter ce qu'on appelle le filibuster, qui est une règle du Sénat américain qui permet aux partis minoritaires de tuer un projet de loi en menant un débat qui ne se termine jamais. Alors il y a une manière de mettre fin au débat, c'est ce qu'on appelle le vote de clôture, mais il faut avoir 60 sénateurs pour le faire, ce qui n'est pas du tout le cas des démocrates aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'il faut avoir un alignement des planètes qui est extrêmement difficile à obtenir et qui est une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont été aussi passifs, en tout cas à l'échelon fédéral, sur le changement climatique. Il y a des exceptions, on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure. Alors maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet sur les conséquences. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que les climato-sceptiques aux États-Unis, à travers leur défense intransigeante, du laisser-faire économique, sont parvenus à façonner en grande partie les termes du débat et donc la teneur des mesures portées par leurs adversaires. C'est-à-dire que très souvent, notamment dans les années 90, mais aussi pendant l'administration de Barack Obama, les élus, les responsables politiques qui ont voulu essayer de faire avancer les politiques publiques sur le front climatique, on cherchait à le faire en mobilisant les mécanismes du marché pour lutter contre le changement climatique plutôt que de remettre en cause leur centralité. Et là, on peut sentir probablement l'influence des think tanks et des experts dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voudrais donner deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Le premier, c'est le choix qui a été fait par le président Obama au début de son premier mandat, donc en 2009, choisir donc un marché du carbone, qui est donc cette loi qu'on appelait cap and trade, où, à travers laquelle l'État fédéral aurait délivré des crédits des droits à polluer que les entreprises américaines auraient pu s'échanger. Et le président Obama a retenu cette option aux dépens, par exemple, d'une taxe carbone, afin de faire un pas en direction des républicains pour leur dire qu'il était prêt à utiliser les forces du marché, les mécanismes du marché pour traiter cette question. D'ailleurs, on peut dire que une taxe carbone consiste aussi à mobiliser les mécanismes du marché, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, clairement, le président Obama a montré à ce moment-là qu'il essayait de satisfaire ses adversaires en empruntant à leur grammaire du marché une représentation de la manière d'aborder la question climatique. L'autre exemple que je voulais donner, c'est celui de l'influence de la gouvernance néolibérale dans les négociations climatiques depuis les années 90. Et là, je m'appuie sur le maître ouvrage de Stéphane Aykut et Ami Dahan, « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », qui fait autorité sur cette question. Et dans leur livre, Aykut et Dahan soulignent l'importance de la notion de gouvernance dans les années 90, au moment, dans les négociations internationales sur le climat. L'accent mis sur les mécanismes de marché, la méfiance à l'égard des réglementations étatiques. Et évidemment, c'est en grande partie le Parti démocrate de Bill Clinton qui met en avant ce type de mesures. Mais là aussi, on peut noter l'influence indirecte de ces climato-sceptiques. Aykut et Dahan soulignent le rôle extrêmement important des États-Unis dans ce qu'ils appellent la généralisation d'une grammaire du marché, et ils ajoutent « la façon particulière de problématiser le changement climatique au niveau international a ainsi conduit à considérer que le marché mondial, plutôt qu'en être la cause, fait partie de sa solution ». Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence touche, selon moi, à la tonalité du débat, de la conversation climatique. Et je ne sais pas si on peut vraiment, utiliser le terme conversation, tant le débat est extrêmement vif aux États-Unis et extrêmement dur et laisse peu de place au compromis. Cela a conduit d'ailleurs un certain nombre de chercheurs en sciences sociales à qualifier ce débat climatique aux États-Unis de guerre culturelle. Alors, vous savez sans doute qu'on utilise l'expression guerre culturelle pour évoquer des débats qu'on appelle parfois en France sociétaux sur des questions qui polarisent énormément la vie politique. Donc, évidemment, l'archétype de la guerre culturelle aux États-Unis, c'est la question de l'avortement. Un équivalent en France aujourd'hui, ce serait peut-être celui du voile islamique dans l'espace public. Donc des questions qui polarisent énormément et qui incitent les parties prenantes à voir l'adversaire non pas comme quelqu'un avec qui on est en désaccord, mais vraiment comme un ennemi qu'il faut abattre et avec qui il est important de ne jamais passer le moindre compromis. Et là, je voudrais donner quelques exemples, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais d'un côté, on retrouve parmi les militants du climat une tendance à diaboliser, évidemment, leurs adversaires climato-sceptiques. Naomi Klein, la journaliste intellectuelle et militante canadienne, parle au sujet du climato-scepticisme d'une vision du monde mortelle. Et, par exemple, le philosophe de l'environnement Henry Shou, a désigné les partisans des fossiles comme les ennemis de l'humanité. Évidemment, de l'autre côté, la tonalité, la rhétorique est tout aussi virulente, voire plus. Vous avez un exemple ici d'un climato-sceptique britannique qui a pignon sur rue aux États-Unis. Et évidemment, ces climato-sceptiques mobilisent le thème de la pastèque, hein, l'idée que les environnementalistes sont verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, que l'environnementalisme est une sorte de socialisme déguisé. Hein, c'est un thème qui est extrêmement fort dans les cercles républicains, conservateurs et libertariens depuis les années 80, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et pour bien comprendre le type de débat et la manière dont le débat se déroule autour du climat aux États-Unis, je pense que ceux qui ont fait le meilleur travail sont les experts en psychologie sociale. Et là, je voudrais parler brièvement, c'est promis, des travaux de Dan Kahan, donc, qui enseigne la psychologie sociale à l'université de Yale et qui s'est intéressé à la manière dont l'opinion publique américaine réagit aux questions climatiques traite les savoirs scientifiques qui circulent dans l'espace public. Et ce que Dan Kahan montre très très bien, c'est que lorsqu'on interroge les Américains au sujet du climat, comme cette question est politisée aujourd'hui, les personnes qui répondent ne disent pas ce qu'elles savent de la question du changement climatique, elles disent qui elles sont et à quel groupe elles appartiennent. D'accord ? Et donc, si vous êtes un républicain, vous avez de très fortes chances d'être réservé sur cette question ou d'être hostile à l'agenda des environnementalistes. Et ce qui est tout à fait troublant dans les travaux de Kahan, c'est qu'il a montré que plus une personne est formée sur le plan scientifique, plus il est probable qu'elle défendra une position idéologique sur le climat. Donc, un conservateur qui se perçoit comme conservateur, même s'il a une formation scientifique solide, aura, selon Kahn, de fortes chances de déployer des ruses de la raison pour essayer de défendre une position idéologique en conformité avec le groupe auquel il prétend appartenir, une sorte de tribu idéologico-politique à laquelle il pense appartenir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Kahn a montré que, en moyenne, les personnes qui soutiennent le consensus du GIEC, donc qui reconnaissent l'importance du changement climatique, son origine anthropique et l'importance d'agir de manière vigoureuse sur cette question, n'ont pas en moyenne une meilleure connaissance de la science climatique que leurs adversaires, ce qui montre que là encore, ils signalent à quel groupe, ils informent la personne qui les interroge au sujet du groupe auquel ils appartiennent, dans ce cas-là, les démocrates et le camp progressiste qui prend la question climatique au sérieux. Et je pense que l'une des grandes conquêtes du mouvement climato-sceptique américain, c'est d'avoir réussi à assimiler la prise en charge politique sérieuse de la question climatique à la gauche, voire au socialisme, en tout cas pour les personnes les plus militantes dans les cercles républicains. Et cela leur permet d'exploiter le climat de forte polarisation idéologique pour maintenir le statu quo et empêcher que des politiques volontaristes sur le plan climatique soient votées. Alors j'en viens à l'administration Trump. Alors vous devez trouver que c'est un petit peu tardif puisque Donald Trump figure dans le titre. Mais ce que j'ai voulu faire, évidemment, c'est essayer de montrer d'où venaient les positions qui ont été celles de Donald Trump au sujet du climat. Et il est vrai que sur, par exemple, la question du commerce international et du libre-échange, le président Trump a tenu des propos et défendu des positions qu'on peut qualifier d'hétérodoxes pour un républicain, puisque le parti républicain est un parti beaucoup plus libre-échangiste historiquement que son adversaire démocrate. On peut dire que sur la question de la Russie, ses positions ont été assez hétérodoxes, mais pas du tout, comme j'essaye de le montrer aujourd'hui, sur la question du climat ou plus généralement sur la question de la réglementation, des réglementations environnementales, où il est, me semble-t-il, un digne héritier de Ronald Reagan et de George W. Bush avant lui, un petit peu moins de George H.W. Bush, qui était plus mesuré sur ces questions. On a vu que son attitude était assez ambivalente. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, d'une certaine manière, Donald Trump, de manière un peu baroque et stridente, s'est contenté de mettre à exécution des recommandations qui remontent aux années 70, aux années 80 et qui sont très majoritaires chez, par exemple, les experts en politique publique conservateurs et libertariens. Alors évidemment, tout le monde a entendu parler du retrait de l'accord de Paris qui avait été annoncé en juin 2017 et qui a pris effet en novembre 2020 pour des raisons techniques. Et si on lit le discours qui a été prononcé le 1er juin 2017 par Donald Trump, on y trouve tous les arguments qui ont cours dans la littérature produite par les think tanks dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on voit bien le lien ici, l'idée que l'accord de Paris est trop coûteux, qu'il nuira à la compétitivité de l'économie américaine et que de toute façon, il ne contribuera pas de manière notable à une réduction d'un phénomène que le président, par ailleurs, dont le président nie l'existence. Mais l'accord de Paris, la sortie de l'accord de Paris est une décision symbolique très forte, mais pour moi, elle n'est pas beaucoup plus que symbolique, puisque l'accord de Paris, comme vous le savez peut-être, n'est pas un accord contraignant. Et donc, à mon avis, ça n'est pas un accord très efficace, mais on pourra en reparler si vous voulez plus tard. Mais Donald Trump ne s'est pas contenté de cet acte symbolique, hein. Il a également pris des mesures concrètes, dont l'une des plus emblématiques est l'abandon du Clean Power Plan de Barack Obama. Donc le Clean Power Plan, pour dire les choses succinctement et simplement, c'est un dispositif réglementaire qui a été mis au point par l'administration Obama durant le second mandat de Barack Obama, afin d'utiliser donc l'autorité de réglementation de l'État fédéral, de la branche exécutive, pour faire décliner très rapidement la part du charbon dans la production d'électricité aux États-Unis, puisqu'au début du XXIe siècle, à peu près la moitié de l'électricité consommée aux États-Unis l'était en faisant brûler du charbon, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. le président Trump s'est empressé d'abandonner ce Clean Power Plan dès les premières semaines de sa présidence. L'influence de Donald Trump s'est aussi manifestée sur cette question-là à travers la nomination de personnalités hostiles aux réglementations environnementales à la tête d'agences chargées de missionner pour faire respecter les réglementations environnementales. Et il y a de nombreux cas, je vais vous donner celui de l'EPA, donc l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Mais avant ça, je voudrais dire à quel point Donald Trump ne se distingue pas en faisant cela de ses prédécesseurs républicains depuis Ronald Reagan, à l'exception partielle de George H.W. Bush. C'est une méthode très courante qui a été étraîné, si l'on peut dire, par Ronald Reagan. Et donc là, on peut donner l'exemple de Scott Pruitt, qui a été l'administrateur de l'EPA pendant les deux premières années, me semble-t-il, de l'administration Trump. Et avant d'occuper ce poste, il avait été Attorney General de l'État républicain de l'Oklahoma, c'est-à-dire qu'il représentait l'État de l'Oklahoma dans les tribunaux. Et à ce titre, il avait intenté de multiples actions en justice contre l'EPA de Barack Obama, qui d'ailleurs, dont certaines étaient encore en cours lorsqu'il a pris les rênes de l'EPA lui-même. Donc, il a ensuite été remplacé par un lobbyiste de l'industrie du charbon. C'est un exemple emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres. Une autre pratique très courante chez les républicains depuis la présidence de Ronald Reagan, c'est celle qui consiste à essayer de réduire les fonds alloués aux agences fédérales de protection de l'environnement. Ça a donc été le cas à nouveau sous Donald Trump. Et cette tendance a particulièrement inquiété les militants du climat et les scientifiques investis sur cette question, puisque si les États-Unis sont assez passifs dans l'arène des négociations internationales sur le climat depuis les années 90, ils ne le sont pas du tout en matière de production de données et de savoir scientifique pour comprendre le changement climatique, le phénomène du changement climatique et suivre son évolution. Et donc, il y a eu une forte inquiétude au début de l'administration Trump, particulièrement, puisque certains craignaient que l'État fédéral, à travers certaines de ses agences et de ses institutions, allait cesser de produire des informations extrêmement importantes, non seulement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Alors, ça n'avait pas, même si l'accès aux informations a été plus difficile, ça n'a pas été, la situation n'a pas été aussi catastrophique que ce que certains ont craigné à l'époque, puisque la bureaucratie fédérale n'a pas cessé ses activités et a produit à plusieurs reprises des rapports en contradiction totale avec les prises de position du président qui était au pouvoir à ce moment-là. Ensuite, l'administration Trump a également, toujours en cohérence avec les recommandations des think tanks dont j'ai parlé tout à l'heure, à chercher à affaiblir autant que possible les réglementations environnementales qui avaient été adoptées avant la présidence de Donald Trump. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'abandon du Clean Power Plan, mais il y a bien d'autres exemples, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Moi, j'ai écrit sur cette question-là, donc si cette question vous intéresse, moi, je pourrais vous envoyer ce que j'ai écrit pour connaître un peu plus les détails, mais je vais vous donner trois exemples rapides. Le premier, c'est la décision par le biais de l'EPA de Scott Pruitt d'assouplir les normes de consommation des véhicules automobiles aux États-Unis. Vous savez qu'aujourd'hui, le secteur du transport est le premier producteur de gaz à effet de serre aux États-Unis, ce qui est une conséquence en partie de la désindustrialisation partielle des États-Unis. Les républicains ont également assoupli les réglementations qui s'appliquent à l'extraction du charbon aux États-Unis, et puis également celles qui sont relatives aux fuites de méthane dans l'exploitation du gaz naturel, ce qui est très important puisque les États-Unis, je reviendrai à la fin de mon intervention, sont devenus le premier producteur mondial de gaz naturel ces 15 dernières années et que le gaz naturel produit du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui reste beaucoup moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, mais dont l'effet réchauffant est plus puissant que celui du CO2. Apparemment des personnes patientes dans la salle d'attente, c'est ce que je viens de voir comme message. Donc ce sont des exemples emblématiques parmi beaucoup d'autres qui montrent à quel point l'administration Trump a cherché à défaire le bilan climatique de Barack Obama en utilisant l'autorité de réglementation qui revient au président. Ma présentation serait incomplète sans un mot au sujet de la vision des politiques énergétiques qui a été en faveur pendant l'administration Trump, donc qui a été désignée sous le slogan de « Energy Dominance », l'idée étant évidemment d'aller au-delà de l'indépendance énergétique pour faire des États-Unis un pays exportateur d'hydrocarbures et utiliser d'ailleurs cette capacité d'exportation comme un outil de politique étrangère. Et puis, le président Trump, évidemment, ne se souciant pas du changement climatique, a cherché évidemment à favoriser la production maximale d'hydrocarbures. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que depuis une quinzaine d'années, avec la généralisation de méthodes de fracturation hydraulique pour l'extraction, de techniques, pardon, de fracturation hydraulique pour l'extraction du pétrole et du gaz naturel, les États-Unis sont devenus à une vitesse absolument fulgurante le premier producteur mondial de pétrole et le premier, donc devant l'Arabie Saoudite, et le premier producteur mondial de gaz naturel devant la Russie, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, ces tendances ont été en grande partie, notamment pour le pétrole, freinées par la crise sanitaire en 2020. Mais toujours est-il que le président Trump et son administration ont tout fait pour favoriser l'extraction maximale de ressources et pour s'en servir évidemment pour soutenir la croissance économique. Et tout ça doit nous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure dans la première partie de mon intervention au sujet de la préférence pour la croissance et pour la société d'abondance. Enfin, et c'est vraiment ma dernière diapositive, ensuite j'en aurai terminé, je voudrais dire un mot quand même pour nuancer un peu le tableau que j'ai brossé assez rapidement de l'administration Trump et de ses politiques énergétiques, environnementales et climatiques. Je voudrais dire, évidemment, cette stratégie a des limites, puisque les États-Unis sont un pays d'état de droit, hein, « rule of law », et que même si le président américain peut utiliser son autorité pour réglementer ou déréglementer, dans le cas de Donald Trump, les activités économiques, il ne peut pas le faire de manière totalement unilatérale. Il est obligé de se conformer à un processus assez exigeant, notamment en vertu d'une loi qui s'appelle l'American Administrative Procedure Act de 1946, contraint la bureaucratie fédérale à justifier les choix réglementaires de réglementation ou de déréglementation. Et très souvent, évidemment, les administrations successives se retrouvent dans les tribunaux pour justifier leurs choix. Et force est de constater que l'administration Trump n'a pas très bien tiré son épingle du jeu pendant ces quatre années et que très souvent, elle a perdu, elle a été ralentie, etc. Donc ça a été une première limite à ce qu'il a pu faire. Et puis, ironie du sort, et j'aimerais terminer sur cette note un peu ironique, les desseins du président Trump ont été en partie contrecarrés par les forces du marché, ironie de l'histoire. Et là, je voudrais dire un mot au sujet du charbon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le charbon représentait au début du XXIe siècle, il y a encore une quinzaine d'années, 50% du mix électrique américain, hein, donc c'était vraiment une source très très importante, mais depuis le milieu des années 2000, cette proportion s'est complètement effondrée. Aujourd'hui on est autour de 20%, donc on a quand même une chute assez vertigineuse en l'espace de 15 ans, et cette chute est le résultat de la concurrence féroce du gaz de schiste, qui est maintenant produit en très très grande quantité et à un prix beaucoup plus compétitif que le charbon. Et donc ce sont les forces du marché, d'une certaine manière, qui sont en train de détrôner le roi charbon, et puis un peu marginalement les énergies renouvelables, mais c'est vraiment le gaz naturel qui fait la différence pour l'instant. Et le président Trump, malgré tous les efforts que son administration a essayé de déployer, n'a pas été en mesure d'inverser la tendance, alors que pendant la campagne de 2016, il avait promis qu'il relèverait cette industrie et la relancerait. Et donc, il n'en a pas parlé d'ailleurs beaucoup durant sa deuxième campagne. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est toujours un peu frustrant et j'espère que ce que j'ai dit n'était pas trop confus parce que j'ai essayé de dire beaucoup de choses et couvrir énormément de sujets. Mais je pense qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant et que je laisse la parole aux gens qui participent pour entendre ce qu'ils ont à dire. Je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas si vous êtes encore là, mais j'espère.
On est toujours là.
Merci, j'ai eu peur de me retrouver seul d'un coup.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Denis pour cette communication très riche et d'avoir aussi les délais impartis voilà, et le cadre un petit peu contraignant qui est le nôtre en distanciel. Alors moi, j'avais une première question, et je vais me permettre d'embrayer, puisque j'ai l'honneur quand même de présider. Alors, tu as beaucoup parlé des freins et contrepoids et du système des contre-pouvoirs. Et c'est vrai que moi, je m'interrogeais aussi sur la place un petit peu de la Cour suprême dans ce débat autour, bien sûr, des enjeux climatiques. Et moi, je me demandais si justement, on ne pourrait pas imaginer à plus ou moins court terme, bon, maintenant, avec la majorité extrêmement conservatrice, bon, les choses risquent probablement de se compliquer, mais enfin, ça reste à voir. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Cour suprême, à un moment ou à un autre, court-circuite le logiciel idéologique et politique des républicains et je pense, par exemple, on a beaucoup entendu parler, de Keystone, de Pipeline, avec la réserve indienne de Standing Rock, qui y avait des enjeux notamment territoriaux. Et est-ce que, justement, sur les enjeux climatiques, à un moment donné, on ne peut pas se demander si, justement, cette question-là, elle doit revenir aux citoyens, et si, à un moment donné, les citoyens peuvent, justement, ne...
J'ai pas beaucoup de temps, parce que je dois rappeler des étudiants après.
Allez-y, je vous en prie.
Ce n'est pas ma réponse. Est-ce que la question était terminée ou je...
Oui. Donc, en fait, je sais même plus ce que je suis en train de dire. Oui, est-ce qu'effectivement, la question ne doit pas revenir aux citoyens? Est-ce qu'ils peuvent porter leur combat, justement, dans les tribunaux, aux tribunaux?
Alors, ils le font, hein, puisque pour commencer sur les tribunaux, j'ai parlé de l'âge d'or de l'environnementalisme américain, donc c'était vraiment les années 70, qui aujourd'hui est le socle sur lequel les environnementalistes s'appuient pour traîner des administrations républicaines ou démocrates dans certains cas devant les tribunaux. Et par exemple, c'est au nom du Clean Air Act, du Clean Water Act et d'autres lois de ce type qui sont en mesure de le faire, donc ils le font depuis longtemps. Et d'ailleurs, la Cour suprême sur la question du climat a rendu un arrêt extrêmement important en 2007, hein, Massachusetts versus EPA, puisque à ce moment-là, les environnementalistes et des États démocrates ont traîné l'administration Bush en justice en disant qu'elle avait la responsabilité d'agir sur le plan dans le domaine climatique, hein, donc en disant que le CO2 devait être réglementé au nom du Clean Air Act, qui à mon avis est en partie d'ailleurs une position assez douteuse, mais en tout cas c'est la décision qu'ils ont rendue. Donc on peut dire que la Cour suprême a un rôle à jouer, mais vous savez, en fait, cet arrêt Massachusetts versus EPA est toujours valable aujourd'hui. Il n'a pas du tout empêché l'administration Trump de faire ce qu'elle a fait, c'est la première chose. Donc la Cour suprême a un rôle à jouer, mais si l'administration en place ne veut pas agir, alors elle n'agira pas et elle fera le contraire. Elle ne peut pas forcer le Congrès à voter une loi. Et j'ai dit tout à l'heure à quel point c'était difficile d'obtenir une voix dans ce domaine-là. Deuxièmement, et la troisième chose, tu en as parlé tout à l'heure, la juge Ginsburg donc a décidé de rester très très longtemps à la Cour suprême parce que sa présence était vraiment indispensable, même en 2013 lorsqu'elle y était depuis 20 ans. Et que le président s'appelait Barack Obama et que le Sénat était contrôlé par les démocrates. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juges de la Cour suprême qui sont des juges très conservateurs, qui sont des gens, par exemple, qui ont voté pour ceux qui étaient déjà en 2007 contre la décision majoritaire de Massachusetts versus EPA. Et donc, je pense qu'il ne faut pas surestimer le rôle positif que peut jouer la Cour suprême dans ce domaine-là, et au contraire, il est possible qu'elle soit une sorte de frein, puisque ce qui risque de se passer dans les années qui viennent, c'est que le président, l'administration Biden va essayer d'obtenir gain de cause auprès du Congrès. Ça va être très difficile. Je pense qu'ils vont obtenir des investissements dans la transition, mais je pense que ce sera très difficile d'obtenir une taxe carbone ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs même pas vraiment une priorité pour eux. Et ensuite, le président, il a déjà commencé, le président Biden va utiliser son autorité de réglementation. Et dès qu'il va commencer à faire ça, les États gouvernés par des républicains vont l'attaquer. Et il y a fort à parier que certaines de ces affaires vont remonter jusqu'à la Cour suprême, où ils auront le plaisir de retrouver la majorité républicaine qui a été en partie construite par Donald Trump, pas seulement par lui, mais pendant son mandat. Donc les tribunaux ont un rôle à jouer, la Cour suprême particulièrement, mais je pense que les attentes en la matière ne doivent pas être démesurées. Il pourrait y avoir une grosse désillusion de ce point de vue-là.
Et j'avais juste une dernière question, je ne sais pas si tu en as parlé, est-ce que tu as des enquêtes d'opinion, les tout dernières enquêtes d'opinion sur justement l'importance des enjeux climatiques?
Alors les toutes dernières, je ne les ai pas lues, mais je les lis régulièrement. Donc ce qu'on voit, c'est que si on interroge les Américains, la majorité reconnaissent que le changement climatique d'origine anthropique est une réalité, la majorité pense qu'il faut faire quelque chose. Mais il faut nuancer cette tendance à deux titres. Le premier, c'est qu'il ne faut pas surestimer du tout l'intensité de ce soutien-là. Lorsque vous interrogez les gens sur une question où ils peuvent vous dire qu'ils sont en faveur d'un certain type de politique publique sans y prêter beaucoup d'importance. Et quand on regarde dans les détails, par exemple, juste après l'élection de Joe Biden, la liste des priorités des électeurs démocrates et des électeurs américains, le climat n'est pas du tout une priorité pour la majorité des gens. On a par exemple la liste des priorités en matière de politique publique du Pew Research Center, hein, qui existe depuis très très longtemps et qui permet d'essayer de voir pour l'opinion publique de déterminer les priorités. Le changement climatique a toujours été au fond du trou, si je puis me permettre l'expression. Il est remonté un tout petit peu, mais il n'est pas très élevé. Donc il ne faut pas surestimer l'intensité du soutien populaire pour ces questions-là. C'est très important chez les militants démocrates, dans l'aile progressiste du Parti démocrate, ce qui est très très important évidemment, mais au sein de l'opinion publique, je ne suis pas sûr que ce soit aussi important que ça. Et puis la deuxième nuance que je voulais apporter renvoie à la polarisation dont j'ai parlé. Il est clair qu'il y a un énorme écart entre les opinions des sympathisants républicains et les opinions des sympathisants démocrates. Alors, si on devait dire, il y a à peu près 20% de gens qui défendent des positions climato-sceptiques aux États-Unis. Donc l'écrasante majorité des gens ne le font pas, mais il y a quand même une très grande différence entre ce que disent les démocrates et les républicains, et sur cette question-là, l'écart reste très important, même aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles. Hein.
Merci beaucoup en tout cas. D'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main, et puis je vais tenter de répartir la parole. Alors j'ai une question. Une question de Léa Fradin. Léa, on vous écoute.
Bonjour. Oui, j'avais une question. On m'entend bien ou pas?
Oui, on vous entend. Allez-y.
Moi, j'entends très bien.
C'était en quoi la pensée néolibérale a pu influencer les choix de Trump sur l'environnement?
Donc, je voulais dire, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ma présentation. Pour moi, c'est vraiment, il faut vraiment distinguer le style Trump extrêmement baroque, brut de décoffrage. On peut dire que d'une certaine manière, le climato-scepticisme de Donald Trump, c'est une sorte de populisme climatique exprimé dans des termes extrêmement crus. Mais les politiques publiques mises en œuvre par l'administration Trump, c'est un climato-scepticisme plus mesuré, d'ailleurs, il faut le dire, hein, il y a quand même des nuances et tous les républicains ne sont pas climato-sceptiques, mais c'est en matière de politique publique l'application du programme des think tanks libertariens et conservateurs dont j'ai parlé. Donc là, je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais je peux par exemple simplement prendre le cas du gaz naturel, dont j'ai parlé tout à l'heure, le gaz de schiste. Donc, comme je l'ai dit, l'administration Obama a décidé, à la fin d'ailleurs du deuxième mandat de Barack Obama, d'imposer des réglementations plus strictes pour essayer de limiter les fuites de méthane qui contribuent au changement climatique. Et cette décision avait suscité une réaction extrêmement hostile des think tanks néolibéraux, si on peut les appeler comme ça, je pense, à l'époque, qui ont souligné à quel point cette mesure était mauvaise, qu'elle risquait de limiter la croissance économique aux États-Unis, qu'elle ne contribuerait rien à la lutte contre le changement climatique. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, un lien très très fort entre ces think tanks néolibéraux, si on veut les appeler comme ça, et les politiques publiques qui ont été mises en œuvre. Et j'ai donné l'exemple du gaz naturel, mais j'aurais pu en donner beaucoup d'autres. Celui-ci est très important, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis sont maintenant le premier producteur de gaz naturel au monde. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais...
Oui, si, si. Et je voulais savoir, est-ce que, du coup, il serait possible de concilier le néolibéralisme et l'écologie, ou en fait, c'est deux domaines qui ne seront jamais conciliables l'un avec l'autre, au final
Alors, si vous contactez les experts de la Reason Foundation, par exemple, ils pourront vous donner, ils vous diront oui, évidemment. Et vous avez peut-être vu dans ma présentation, dans une des premières diapositives, un ouvrage qui, à mon avis, répond directement à votre question, qui s'intitule Free Market Environmentalism. Donc, c'est un ouvrage très intéressant, d'ailleurs, qui a été publié, il me semble, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, et qui explique comment les principes du libre marché peuvent être utilisés afin de protéger l'environnement. Et donc il y a énormément d'idées contre-intuitives qui sont avancées dans ce livre. Et je vous en donne une, par exemple, un exemple d'une idée qui est proposée dans ce livre. C'est l'idée qu'il faut à tout prix privatiser le domaine public fédéral, parce que si on le privatise, les personnes qui possèdent, par exemple, la vallée de Yosemite, etc., vont tout faire pour la protéger, vont tout faire pour donner, pour l'exploiter, pour la valoriser, et ce faisant, non seulement ils vont la préserver, mais en plus, ils vont l'utiliser pour donner aux gens ce qu'ils veulent vraiment, parce que les gens devront payer pour y accéder, parce que le marché sera mieux à même de déterminer les préférences des uns et des autres plutôt que l'État fédéral qui doit décider tout seul pour tout le monde, etc. Et donc c'est à travers la généralisation des droits de propriété que l'on obtiendra une meilleure protection de l'environnement. Il y a plein d'autres idées comme ça, qui sont jamais mises en œuvre d'ailleurs, mais si vous vous intéressez à cette question, je pourrais vous envoyer le PowerPoint, et même moi j'ai écrit sur cette question-là, vous avez un ouvrage qui s'intitule « Free Market Environmentalism ».
D'accord, merci beaucoup.
Merci, nous avons une question de Fausto Garza.
Puis je clique sur le micro. Bonjour, bonsoir d'abord. Merci pour votre conférence. Alors, je vais commencer par une petite affirmation et après je pose ma question, ça va aller très très vite. Donc, vous nous avez donné une vision très manichéenne de la société, donc et du spectre politique et culturel des États-Unis. C'est d'ailleurs ce que l'on ressent généralement en France. On perçoit les États-Unis de la sorte, hein, donc quelque chose de très manichéen, de très il y a le bien, le mal, les sceptiques, les pas sceptiques, etc., etc. Et on a véritablement l'impression, effectivement, que la majorité donc des Américains vont vers un scepticisme envers effectivement les problèmes climatiques. On se rend compte effectivement qu'il y a quand même des camps qui sont bien affirmés. On parle des deux grands partis qui sont le parti bien sûr républicain et le parti démocrate. Alors la question que j'aimerais poser est la suivante. À l'intérieur par exemple du parti républicain, n'existe-t-il pas des résistants à ce genre de choses, des personnes qui effectivement ne vont pas peut-être dans le sens du parti? Existe-t-il des groupes qui effectivement contestent un petit peu et qui tiennent en compte donc les difficultés climatiques? Vous nous avez parlé du gaz de schiste, ça c'est absolument terrifiant parce que c'est d'un point de vue écologique c'est terrible. N'existe-t-il pas donc à l'intérieur même de ces partis des gens qui s'opposeraient donc à la vision même du parti et qui effectivement donc donneraient une autre idée de la réalité?
Alors la réponse est oui. Alors, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui est contre le gaz de schiste, mais par contre il y a des Il y a des gens qui ne sont pas des climato-sceptiques au sein du Parti républicain, ils sont minoritaires, ils essayent de se faire entendre. Alors pour résumer, je commencerai par dire que j'avais d'ailleurs gardé une diapositive pour ça, parce que je pensais qu'il y aurait une question sur ce sujet-là, donc je vais répondre avec quelques exemples. Le premier exemple, celui de John McCain, hein, donc qui était candidat, qui a été sénateur de l'Arizona et qui a été candidat malheureux en 2008 à la présidentielle. John McCain, lui, a défendu à trois reprises dans les années 2000 un projet de loi de cap and trade, donc de marché de prix à polluer. Depuis, plus récemment, ces 10 dernières années, a été créé au Congrès un caucus qui s'appelle le Climate Solutions Caucus, qui est une sorte de groupe de discussion qui se veut bipartisan, donc pour y rentrer. Donc c'est un groupe d'élus au Congrès qui veulent que des lois soient votées sur la question climatique. Pour y rentrer, si vous êtes démocrate, il faut être accompagné d'un républicain. Si vous êtes républicain, il faut être accompagné d'un démocrate. La dernière fois que j'avais vérifié, il y avait à peu près 60 membres, donc 30 républicains, donc il y en a. Il y a quelques années, environ 5 ans, des personnalités comme James Baker, Henry Paulson, qui sont donc des figures républicaines, ont créé une organisation qui s'appelle le Climate Leadership Council, qui a publié un texte que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, qui s'appelle The Conservative Case for Carbon Dividends. Cette sorte de think tank défend l'idée d'une taxe carbone d'un certain type et qui serait censé ne pas violer les principes du libre marché. Donc il y a des choses qui sont faites. Il y a un think tank qui s'appelle le Niskanen Center, qui est un think tank libertarien et qui essaye de défendre des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des élus républicains qui sont distingués là-dessus. Quand même, la plupart d'entre eux, ils ont tendance à se faire désosser dans des primaires dans les deux années qui suivent. L'un d'entre eux, notamment en Caroline du Sud, qui s'était particulièrement distinguée sur cette question-là et qui a perdu très très rapidement. Donc la réponse est oui, les choses sont moins manichéennes que ça, mais lorsqu'il s'agit de voter, lorsqu'il s'agit de passer une loi, là, le Parti républicain se comporte de manière en grande partie monolithique. Et donc, vous savez, par exemple, et après j'en termine parce que ma réponse est trop longue, mais le Climate Leadership Council a publié sa proposition de taxe carbone conservatrice en adéquation avec les principes du marché libre 7 mois avant l'annonce du retrait de l'accord de Paris par Donald Trump. Donc on voit que les résultats sont quand même très très négligeables. Et pour terminer cette réponse, et là vraiment j'en aurais terminé, je suis tout à fait d'accord pour dire que la société américaine et l'opinion publique américaine se déploie de manière beaucoup moins manichéenne que ce que j'ai dit, mais par contre pas la vie politique américaine. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la vie politique américaine à l'échelle nationale, où on a des affrontements de plus en plus frontaux, de plus en plus manichéens, et une société qui est beaucoup moins radicale que ça. Il y a un politiste qui s'appelle Maurice P. Fiorina qui a écrit là-dessus, qui remet d'ailleurs en cause la pertinence de l'idée de guerre culturelle. Il a écrit un livre absolument brillant sur cette question-là, mais dans ce livre, il reconnaît par contre que la vie politique américaine, à la différence de la société civile, s'organise de manière de plus en plus manichéenne. Et là, à mon avis, en tout cas, moi, je suis d'accord avec cette position-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Juste une dernière question pour répondre aussi à la question qui a été posée donc précédemment par cette jeune femme. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment peuvent-ils effectivement donc lier ces préoccupations à cette vision libérale qui est typique quelque part des États-Unis? Donc cette protection du niveau de vie américain, etc., etc., cette vision de la croissance qui permettrait effectivement de solutionner des choses qui, à mon sens, peuvent être difficilement, qui peuvent être difficilement résolues justement par la croissance. Comment font-ils pour lier donc cette vision donc typiquement libérale avec effectivement la protection, par exemple, de la planète, etc., etc.?
Eh bien, en utilisant des mécanismes de marché. Donc c'est pour ça que John McCain a choisi un crédit du carbone. Donc le crédit du carbone, vous avez un échange entre entreprises. On a ça dans l'Union européenne, ça marche pas du tout d'ailleurs. La taxe carbone, c'est une manière d'utiliser le marché, puisqu'une taxe carbone consiste a envoyé un signal prix. On a essayé en France, ça a donné les gilets jaunes. C'est un signal prix qu'on envoie aux gens pour qu'ils changent leurs habitudes. Donc, par exemple, arrêter de consommer du diesel, ça devient trop cher. Ça a été assez mal pris dans certains territoires dans notre pays. Mais c'est une manière d'utiliser le marché, la taxe carbone, puisque, en fait, on reflète dans les prix les externalités négatives de la croissance et on espère orienter les gens vers des comportements vertueux. Donc, il y a des manières. Le père de la taxe carbone, c'est, vous le savez peut-être, c'est un économiste américain qui s'appelle William Nordhaus, qui a reçu le prix Nobel d'économie il y a un an ou deux maintenant. Et lui, moi, quand j'ai lu son livre The Climate Casino, il explique très bien, il dit mais moi, ma proposition de taxe carbone, c'est une proposition de marché. Moi, je suis pour l'économie de marché. J'ai envie qu'on réglemente l'économie en partie, qu'on oriente la croissance vers la décarbonisation. Et ma taxe carbone est un outil, un mécanisme du marché qui serait mis au service de la décarbonisation. Donc, est-ce que ça marche? C'est une autre question. Mais les Républicains qui se saisissent de ces questions-là, en tout cas, n'iront pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais réclamer le socialisme, un État extrêmement
régulier. J'ai bien compris. Oui, parce que la taxe carbone, de toute façon, n'empêchera pas la croissance. Je veux dire que donc ça, ça me semble, comme solution, ça me semble vraiment très très mauvais, quoi. Donc la taxe n'empêchera pas la croissance, n'empêchera pas le système de continuer d'exister.
Mais c'est le plan opérant. C'est le pari de la croissance verte, en fait. C'est cette idée qu'on peut verdir la croissance en utilisant une taxe carbone qui inclut les externalités de... Moi, je n'y crois pas beaucoup, hein, personnellement. J'explique simplement les idées, présente les idées qu'ils défendent. Mais...
Ça n'empêchera pas la marche en avant. Hein, donc là, ça, c'est... Voilà, merci beaucoup.
En tout cas, les Républicains n'iront jamais au-delà de ça, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'une taxe carbone ou un marché du carbone, c'est déjà quelque chose qui est très minoritaire dans leur camp. Hein. Et donc ceux qui se saisissent de ces questions proposent ça, mais ils n'iront pas plus loin.
Oui, mais ce n'est pas complètement monolithique, hein, parce que moi, j'avais l'impression au départ que c'était vraiment ça. Donc, lorsque je vous ai entendu parler, donc je vois qu'effectivement, il y a quand même quelques contestations, quelques adaptations à l'intérieur même du Parti démocrate, et j'imagine que ça doit être plus fort quand même à l'intérieur du Parti républicain, et j'imagine que ça doit être plus fort quand même côté démocrate. Oui. Il va y avoir quand même quelques propositions un peu plus soutenues, un peu plus solides.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette question. Nous avons une question de Colline Candela.
Oui, bonjour. En fait, j'aimerais juste revenir sur le moment où on a commencé à parler des accords de Paris et du fait que vous disiez qu'ils n'étaient pas assez contraignants. Est-ce que vous faisiez référence qu'ils n'étaient pas contraignants? Est-ce que vous faisiez référence au fait que Trump se soit enlevé de cet accord, ou enfin, est-ce que vous pourriez préciser ce point, s'il vous plaît?
Bien sûr. Alors, l'accord de Paris, en fait, c'est pas qu'il n'est pas assez contraignant, il n'est pas contraignant du tout. Enfin, il y a une seule contrainte dans l'accord de Paris, c'est que vous devez afficher vos objectifs, d'accord ? Donc l'accord de Paris, s'il a été adopté par tous les pays qui ont participé, à l'exception de la Syrie qui avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là et qu'il a adopté un peu plus tard, et le Nicaragua qui le trouvait insuffisant, c'est pour une raison. Donc il a été accepté par l'Arabie Saoudite, il a été accepté par les États-Unis, il a été accepté par la Russie, il a été accepté par le Qatar, etc. Donc ça devrait déjà quand même nous interpeller un petit peu. Et l'accord de Paris, c'est un accord qui repose sur le principe du name and shame, donc sur la volonté des participants de préserver leur réputation dans le monde. Et donc chaque pays va présenter des objectifs de réduction qui ne sont pas les mêmes selon leur situation de développement, leur contribution passée au problème, etc. Et doivent essayer de mettre, à l'échelle nationale, doivent mettre en place des politiques publiques pour décarboniser leur économie. Donc ça, c'est l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, c'est un accord où vous avez des gens qui se réunissent et qui disent « on va tous faire un régime ». Moi, je vais perdre un kilo, moi, je vais en prendre deux au lieu d'en prendre six, moi, je vais en perdre 12, etc. Et on se retrouvera dans 5 ans, on doit se débrouiller, et puis moi, je dois avoir perdu mes 2 kilos, mes 12 kilos, etc. Et si je ne fais pas, il ne m'arrive rien. Il n'y a aucun mécanisme qui permet de contraindre les pays à honorer leurs engagements. Ils doivent simplement publier les résultats. Pour l'instant, il y a des établissements qui suivent ça. Hein. Vous pouvez voir Carbon Tracker, etc. Il y en a d'autres. Pour l'instant, la plupart des pays ne tiennent pas leurs engagements et sont censés, dès décembre prochain, à Glasgow, en prendre de plus ambitieux encore. Donc, c'est ça, l'accord de Paris. C'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup plus que rien. Puisqu'on peut très bien sortir de l'accord de Paris et être très vertueux, faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre, ou y rester et ne pas être vertueux du tout. Et c'est pour ça que je voulais dire que c'était le retrait américain de l'accord de Paris sous Trump a été symboliquement très fort, évidemment. C'était très très fort, je ne dis pas le contraire. Mais concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que les États-Unis n'étaient obligés à rien de toute façon. Les États-Unis ont joué un rôle très très important dans l'architecture de l'accord de Paris, puisque ce pays ne veut pas depuis le début d'accords contraignants. Il n'est pas le seul, mais il a joué un rôle très important. Tout simplement parce que si Barack Obama avait signé un accord contraignant, il aurait été obligé d'aller voir le Sénat, qui était à l'époque contrôlé par les Républicains, et demander à la majorité des deux tiers du Sénat de ratifier l'accord de Paris. Donc je vous laisse imaginer ce que les Républicains que j'ai décrit dans ma présentation aujourd'hui auraient dit à cette proposition. Donc ce sont les Américains, les Indiens aussi, ce ne sont pas les seuls, hein, les Américains qui ont obtenu ça. Et donc ça nous fait un accord qui a le mérite d'exister, mais qui à mon avis est très faible parce qu'il n'est pas contraignant. Et le Graal dans les négociations internationales autour du climat, ça serait d'avoir un accord contraignant. Je crois que le Danemark est d'accord, mais pas l'Arabie Saoudite.
D'accord, je comprends mieux. Mais du coup, en fait, c'est sans vouloir résumer trop grossièrement, c'est plus, enfin, ça a plus une dimension médiatique plutôt que des réels effets écologiques.
Alors, ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un monde dans lequel chacun va faire de plus en plus d'efforts. Donc, mais en tout cas, pour l'instant, les résultats dans l'écrasante majorité des cas ne sont pas là. Et c'est un accord, en plus, me semble-t-il, qui a encore moins de chances de marcher après ce qui s'est passé sous Donald Trump, puisque même si Joe Biden a décidé de rejoindre à nouveau l'accord de Paris, qui sait ce qui se passera dans 4 ans si un républicain est élu? Et même d'ailleurs si les États-Unis restent au sein de l'accord de Paris après l'élection d'un républicain, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, le républicain en question peut tout à fait décider de réorienter les politiques publiques dans un sens qui n'irait pas vers la réussite de l'accord de Paris. Après, vous rencontrerez des spécialistes de ces questions qui seraient un peu gênés par ce que je suis en train de dire, mais moi en tout cas depuis le début, je n'ai jamais été convaincu par cet accord qui a le mérite d'exister. C'est très très difficile. Hein. Moi, je ne suis pas en train de jeter la pierre au gouvernement américain de Barack Obama en leur disant vous auriez dû obtenir un accord contraignant, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu l'obtenir. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas surestimer la réussite qu'a été cet accord.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, nous avons une dernière question de Stéphane Porion.
Oui, rebonsoir Jean-Daniel. Ce sera une question de non-spécialiste. Et puis, par rapport aux questions posées avant, tu as déjà peut-être répondu par petites touches. Tu nous as montré donc une forte continuité depuis les années Reagan. Et tu t'es attardé à dire que pendant la période Obama, les Républicains avaient donc fait une opposition systématique à une politique plus verte qui engloberait, on va dire, climat, énergie, etc. etc. Tu nous as aussi rappelé donc l'accord de Paris n'est pas contraignant. Biden veut le rejoindre et donc les États-Unis vont sûrement participer à la COP26 à Glasgow en novembre prochain. À partir du moment où tout est symbolique et que là, le parti républicain doit quand même se reconstruire et tourner ou pas la page Trump, est-ce que va se dessiner le même genre d'opposition systématique où la question environnementale ne devient pas un cheval de bataille, où les républicains doivent ferrailler contre les démocrates, ou comment c'est en train de se recomposer, ou c'est trop tôt pour poser la question?
Alors, je vais essayer de répondre à cette question, je vais essayer de faire un pronostic. En préambule, je veux dire que j'ai fait partie des gens qui avaient prophétisé la victoire triomphante de Hillary Clinton en 2016, donc il faut se méfier de mes prédictions. Alors, première chose, je dirais que ce qui sera peut-être un peu différent cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui vont ressembler à la période Obama, à mon avis, mais ce qui va changer, c'est que les États-Unis vont très vraisemblablement essayer de relancer leur économie en creusant encore leur déficit. Donc, il va y avoir des investissements publics massifs. Et je pense que dans ce cadre-là, il va falloir négocier avec les Républicains. Ils ne vont pas obtenir la somme, à mon avis, qu'ils voudraient avoir, mais il va y avoir un compromis autour d'une somme considérable. Et je pense qu'une bonne partie, une partie non négligeable des plans de relance, d'investissement public pour relancer l'économie, va aller vers le financement de la transition, donc soutien aux renouvelables, efficacité énergétique, la recherche sur le stockage de l'énergie, sur la captation du carbone. En plus, c'est une question sur laquelle les Républicains sont prêts à avancer, etc. Donc je pense que ce qui va changer, peut-être, c'est que contrairement à 2009, les Républicains vont jouer davantage le jeu de l'investissement public et cet investissement public va essayer de servir la transition. Par contre, moi, je peux me tromper, hein, évidemment, ça m'arrive souvent. Je ne pense vraiment pas qu'ils accepteront de voter pour des lois ambitieuses. Et je pense qu'ils vont surtout essayer de contrecarrer la plupart des réglementations qui vont être mises en place. Hein. J'ai dit tout à l'heure que l'un des outils que Joe Biden a déjà commencé à utiliser, c'est l'outil de réglementation, de la même manière que Trump l'avait fait, lui, dès les premiers jours de son mandat. Et donc là, ça va se jouer à nouveau dans les tribunaux, ça prendra beaucoup de temps, et donc ça devrait ressembler en bonne partie à ce qui s'était passé sous Barack Obama. Par contre, ce qui a changé aussi, c'est que la question climatique est maintenant extrêmement importante actuellement pour les démocrates. C'est-à-dire qu'ils en ont parlé beaucoup plus que Barack Obama l'avait fait en 2008. Il en avait parlé en 2008, il n'en avait quasiment pas parlé en 2012, c'était très intéressant. Là, ils en parlent énormément. Ils n'ont pas arrêté d'en parler depuis qu'il est élu. C'est vraiment devenu une priorité. La question du Green New Deal, etc. Il n'y aura pas de Green New Deal, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est très très important, notamment pour l'aile progressiste du parti. Ils ne sont pas tout à fait tous d'accord sur ce qu'ils sont prêts à faire. Hein. Sur, par exemple, le gaz de schiste, ils ne sont pas sur la même position. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une question qui va rester très importante et beaucoup plus importante sous Barack Obama. Et je pense que les Républicains accepteront plus d'investissements publics, mais freineront pour le reste, à mon avis. Donc, ce n'est probablement pas ce qui va se passer. Mais
merci pour ta réponse et ta communication. Et puis... tu as le désavantage d'avoir X témoins qui ont entendu tes prédictions, donc on en reparlera dans 4 ans. Merci.
Merci. Une dernière question, Jérémy Barbier.
Oui, bonsoir. Alors moi, je voudrais poser une question à propos des mobilisations jeunes aux USA sur les questions climatiques. Donc il y a eu les marches pour le climat il y a quelques années, donc en 2019, je crois, qu'ont mobilisé quelques millions de jeunes, notamment à New York, etc. Est-ce que ces mobilisations-là, elles peuvent avoir un impact structurel et changer petit à petit les mentalités politiques américaines? Ou est-ce que c'est voué par rapport aux institutions et au mode d'élection, etc., par validation de grands électeurs, etc. Est-ce que c'est voué un peu à mourir dans l'œuf et à pas pouvoir prendre d'importance politique?
Alors, pour moi, ce serait plutôt réponse B. Pour moi, même si ces mobilisations sont importantes, parce qu'elles jouent un rôle dans l'évolution du Parti démocrate, dont j'ai parlé il y a quelques instants, donc elles ne servent pas à rien et elles ont cette importance-là. Mais encore une fois, il faut revenir à la polarisation. Et si vous voulez, si vous êtes un élu démocrate de l'État du Kentucky, vous ne vous souciez pas de ce que des jeunes militants environnementalistes vont demander dans les rues de New York. Au contraire, vous n'avez qu'une obsession, c'est de vous distinguer de ces gens-là, parce que quand vous allez devoir gagner votre primaire pour pouvoir vous présenter et représenter le Parti républicain, les gens qui vont participer à la primaire, ce ne seront absolument pas ces gens-là. Ce seront des gens qui sont complètement indifférents à la question climatique, ou au contraire, qui adorent le jeu de polarisation partisane et qui adorent... s'opposer aux environnementalistes, qui adorent les détester, hein, on appelle ça « negative partisanship », ça a été très bien analysé par Abramovitz, par exemple. Et donc, moi, je pense que, si vous voulez, pour que les choses évoluent, il faudrait surtout que le parti républicain évolue sur ces questions-là, parce que le parti démocrate, quand même, a vraiment évolué. Moi, je pense que c'est le changement n'est pas seulement une évolution symbolique, même si on peut dire que c'est imparfait, etc. Mais il faudrait que le parti républicain évolue sur cette question-là, et je ne pense vraiment pas que le parti républicain, la plupart des élus républicains, seront sensibles à cette militance-là, tout simplement parce que ça n'est pas leur peuple, ça n'est pas leur tribu politique, et que leur survie politique ne dépend pas d'eux. Donc ma réponse, c'est plutôt la réponse B, la deuxième partie de ce que vous disiez. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, j'ai à peu près le même constat de base, enfin, je pense à peu près la même chose, mais je vous remercie.
De rien.
Ainsi s'achève donc notre séance du séminaire Le libéralisme dans tous ses états. Je tiens à remercier tous les participants ainsi que notre intervenante ce soir pour la qualité de leurs échanges et de leurs réflexions.